Par ici la musique.
Bien que je m'appelle pas Henri, je voudrais réussir ma vie. J'éviterai l'hélicoptère pour pas mourir dans le désert. Je ne connais pas cette Fernande, mais c'est sûr que je bande. Ma vie n'étant pas encore faite, évitons la plage de cette. Les chansons qui disent des mots, qui font comme si c'était vrai. Les chansons qui disent des mots, un petit refrain et des couplets. Un petit refrain et des couplets. Le sud c'est vraiment pas chez moi, ma tortue s'appelle pas Mirza. Mon fusil s'est enrayé hier dans un grand champ de blé. Moi aussi j'aime les dames, celles d'ici et d'Amsterdam. Mon cancer est en chose acquise, moi je crèverai pas aux marquises. Les chansons qui disent des mots, qui font comme si c'était vrai. Les chansons qui disent des mots, un petit refrain et des couplets. Un petit refrain et des couplets.
On est ici à Saint-Ursanne, en face de la collégiale. On a presque eu peur que Fowski Django nous donne rendez-vous dans la collégiale, mais non, il a décidé de communier à l'église d'en face, comme le disait Fernand Reynaud dans un de ses sketchs. Comment ça va, Fox ?
Ça va très bien, et puis je suis ravi d'être à l'antenne. Bonjour à tous.
J'aimerais d'abord qu'on évoque ce chanteur mortel. C'est un titre que tu te donnes depuis quelques années maintenant. Et finalement, c'est le titre d'un album qui devrait sortir dans les mois à venir. Ce titre de chanteur mortel, pourquoi est-ce qu'il est si important pour toi ?
Ben c'est surtout lié au sujet que je traite dans mes chansons. Pour traiter de la vie, il y avait deux solutions. Soit je parlais des petites fleurs et des choses qui vont bien, ce qui est vite lassant. Soit je parlais de choses graves, lourdes et parfois sinistres. Mais en fait, c'est surtout une excuse pour parler de la vie, en fait. Et quand on parle de la mort, on parle forcément de la vie tout le temps. Et c'est pour ça. Et puis, peut-être que le seul terme excessif dans chanteur mortel, c'est chanteur.
La mort t'inspire souvent ?
Ouais, la mort m'inspire, mais comme je le dis, c'est vraiment parce que c'est la partie noire qui permet de voir le blanc, en fait. Mais ouais, la mort m'inspire, le quotidien difficile, les difficultés, je trouve ça plus inspirant que le bonheur un peu béat qu'on peut trouver chez d'autres chanteurs.
Est-ce qu'il y a chez Fox un côté poète maudit avant d'être chanteur mortel ?
Ouais, c'est beaucoup dire, mais disons que... C'est pas vraiment à moi de le dire, mais ouais, ça me déplairait pas d'être un poète maudit, en fait.
J'imagine.
Ça me déplairait pas. Mais voilà, c'est le public qui décide, en fait. Moi, je suis qu'à la base qu'un artisan et les moyens qui sont les miens font que je ne peux faire que de l'artisanat en musique. Donc, ça m'oblige à la sincérité, mais ça m'oblige aussi à la débrouille et à la souplesse.
Baise-moi si fort, baisons la mort, les humains et les fleuves, les filles, les gars, les veuves. Baise à déchirer la nuit, baise en criant sans bruit, comme un coup de canif, comme la fin d'un spliff. Dans l'absence, baiser à deux et jouir si tu le veux.
On est ici dans un lieu animé qui est un bistrot, ce sont les deux clés à Saint-Ursanne. Le bistrot, c'est un lieu important pour Fox.
Bah, c'est mon cocon, c'est mon lieu de naissance. Moi, je suis né au Buffet de la Gare à Saint-Ursanne. Mes parents ont tenu ce restaurant pendant 35 ans. Ils l'ont repris en 67 et moi, je suis né en 66. Donc, j'y ai passé effectivement toute ma jeunesse dans un bistrot. Entre la machine et café et le jukebox. Et ouais, effectivement, le bistrot, c'est mon... On va dire que c'est mon biotope.
C'est vrai que le bistrot, on parlait souvent du bistrot en tant que lieu social. C'est là aussi connaissent parfois, j'allais dire des histoires de vie, mais des anecdotes de vie. C'est là qu'elles se racontent, en tout cas. C'est là qu'elles se partagent. Et c'est ça qui peut parfois faire naître des chansons.
Ouais, parce que bon, le bistrot ressemble des fois un petit peu à un cabinet de psychiatrie, quoi, parce que les gens viennent un peu au bistrot pour partager leur bonheur, mais aussi leur, leurs soucis, leurs inquiétudes. Et puis effectivement, au bistrot, pendant toutes ces années, pendant ces 30 ans de bistrot, on a entendu un peu les petits, les grands secrets de tout le monde. Ça m'inspire encore aujourd'hui parce que ça m'a aussi prouvé que les gens ne sont jamais vraiment ce qu'on pense qu'ils sont, qu'on ne connaît vraiment pas à fond quelqu'un parce qu'on le voit tous les jours au bistrot, mais en même temps il peut dévoiler parfois des choses étonnantes qu'il dirait peut-être pas à sa propre famille. Et puis le bistrot, pour ça, je trouve que c'est quand même une sorte de révélateur d'une époque et encore aujourd'hui.
Voilà, ça c'est on va l'enregistrer, ça
Par ici, la musique.
Alors, le fait que tu sois né quasiment au buffet de la gare à Saint-Ursanne fait que musicalement, tu es né entre les fêtes champêtres et le jukebox.
Oui, exactement. Dans tous mes souvenirs d'enfance, il y a de la musique. En fait, mon papa joue de l'accordéon, ma maman joue du banjo, ma soeur joue du piano. On était, par exemple, j'ai un nom qui tient le restaurant de la Binsberg qui a des leaders de l'écho des Ordons. Donc, je suis venu à la musique par le biais de la musique populaire et puis aussi par le biais du jukebox où toutes les semaines, quand on allait faire les courses à Delémont avec ma maman, on s'arrêtait dans un petit magasin de disques qui n'existe plus, mais qui se trouvait place de la gare à Delémont, certains s'en souviennent. Et j'avais le droit de choisir un ou deux disques chaque semaine. Et c'était pour moi un rendez-vous extrêmement important. Puis ça m'a permis de découvrir des gens comme Joe Dassin, Pink Floyd, Deep Purple, Ozzy Strobe. Enfin, c'était très, très éclectique. Et puis je crois que j'ai gardé ça, c'est l'ouverture à toutes les musiques.
C'est aussi cette ouverture-là qui fait que finalement, un jour, tu travailles dans un festival, là où on permet toutes les rencontres, toutes les musiques et tous les univers.
Souvent, là, ce qui m'est arrivé souvent en musique et tout ce qu'il y a autour de la musique, c'est souvent lié à des histoires d'amitié. En l'occurrence, dans le festival dont tu parles, c'était le Rocker. Quand j'y suis entré, ils cherchaient un speaker. Ils ont considéré que j'avais une assez grande gueule pour prendre ce poste. Et puis je me suis retrouvé en fait à devenir le régisseur de plateau et l'attaché de presse et même quelques années le graphiste. Et enfin, j'ai un peu pu toucher, grâce à ce festival, j'ai pu toucher à plein de choses. Puis j'ai aussi vu l'envers du décor, ce qui m'a permis de faire mes premières armes et puis de me blinder un peu pour ce qui m'attend maintenant.
Quand je serai grand, je serai riche, cousu d'or et de dollars, en Rolls-Royce sur la corniche et des baignoires pleines de caviar. Quand je serai grand, je serai beau, une véritable gravure de mode, les yeux bleus et le corbeau colosse comme celui de Rhodes. Quand je serai grand, je serai mort, et tout ça servira à quoi? Être puissant, beau, bien fort, c'est la poussière qui gagnera.
Fox Kijango, qui est notre invité aujourd'hui dans Par ici la musique. Ton véritable nom, c'est Richard Chiren, on le dit volontiers.
Oui, j'assume complètement. J'assume complètement. Mais c'est aussi parce que je ne voulais pas mouiller toute ma famille dans mes sinistres histoires que j'ai pris un pseudo.
Est-ce que tu es musicien?
Est-ce que je suis musicien? Je ne suis pas instrumentiste, ça c'est clair. Je joue très mal du clavier, mais j'en ai joué 7 ans dans un groupe qui s'appelait Cocktail, où on faisait du latino-américain, avec notamment comme chanteur Karim Sek, qui est le directeur de Monde de Couleur à Porrentruy. C'était une époque assez bénie où on mélangeait allègrement la musique et la bière. Mais,
il y avait plus de bière ou de musique?
Vers la fin, il y avait plus de bière. Mais en fait, je pense que je peux considérer que je suis musicien. Je me considère peut-être à tort comme musicien parce que je suis chanteur et harmoniciste. Je joue de l'harmonica depuis longtemps. J'ai un jeu très personnel que j'ai développé moi-même en autodidacte, mais je pense que oui, je pense que je suis musicien en tout cas dans l'esprit. Maintenant, dans les faits, je ne sais pas ce que les autres en pensent, mais moi j'assumerai volontiers ce terme, quoi, en tant que chanteur en tout cas.
Et tout ça servira à quoi? Être puissant, beau, bien fort, c'est la poussière qui gagnera.
Par ici la musique.
l'harmonica, quand même, moi je l'ai entendu plusieurs fois, je t'ai vu jouer, parce que c'est important de voir jouer les musiciens, je t'ai vu maîtriser cet instrument avec un bonheur certain.
Oui, alors c'est un instrument un petit peu, moi j'ai l'habitude de dire que l'harmo c'est un peu un instrument de branleur, parce qu'on peut vite être efficace, c'est-à-dire c'est un peu un instrument d'esbrouf, mais par contre si on veut aller un peu plus loin dans le travail de cet instrument, c'est un vrai travail. Et peut-être que quand tu m'as entendu, c'était une période où j'en jouais beaucoup. Là, j'en joue un peu moins et on perd très très vite les automatismes, le souffle et tout ça. Donc c'est un instrument qui nécessite une pratique quotidienne, qui n'est plus tout à fait mon cas maintenant. J'en joue dans mon spectacle sur 2 ou 3 morceaux, mais je ne me considère pas comme un excellent harmoniciste, mais je suis plutôt un harmoniciste d'ambiance, on va dire.
La musique t'a fait voyager aussi.
Alors c'est plutôt le voyage qui m'a amené à la musique, c'est-à-dire que j'ai eu la chance entre 20 et 30 ans de faire de longs et très beaux voyages comme routard avec un sac à dos et une harmo dans la poche. Et ça m'a donné l'occasion de rencontrer des musiciens d'un peu partout, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, au Canada.
Mais comment ça se passait ? Tu peux nous en raconter quelques-unes de ces rencontres ?
Ben, par exemple, j'étais au lac Saint-Jean, au nord de Québec, à l'île du Repos, et il y a un artiste québécois que j'aimais beaucoup à l'époque déjà, qui s'appelle Plume la Traverse, et que certains connaissent peut-être parce que c'est une sorte de Gainsbourg folk version québécoise. C'est un sacré personnage, un personnage qui crachait pas tellement dans le verre, et moi non plus à l'époque, et on s'est rencontrés au bar là, et il m'a emmené avec lui sur une mini tournée dans cette région-là, vers le Newfoundland par là-haut. Et j'ai tourné avec lui. Alors là, je jouais un peu d'harmo et pas mal de la bière. Là, faut reconnaître que les Québécois, ça dégringole vite. Et voilà, c'est une super rencontre. J'ai rencontré Fabienne Thibault dans un studio de radio à Montréal. Et je me suis fait embarquer pour faire des chœurs sur un titre qui n'est jamais sorti d'ailleurs, tellement c'était n'importe quoi. Mais en fait, j'ai toujours été dans l'entourage de musiciens. J'ai toujours été, par exemple, en tant qu'organisateur, je suis souvent confronté aux musiciens, parce que moi qui les engage ou qui les paye ou pas d'ailleurs. Et c'est un monde dans lequel je me sens extrêmement bien. J'ai fait un petit passage aux Beaux-Arts comme peintre parce qu'il paraît que j'avais un certain coup de crayon que j'ai un peu perdu. Et je préfère nettement les musiciens que les peintres ou les auteurs. Et c'est un milieu où je me sens chez moi, au milieu des miens.
On ne peut pas inviter Fox Kijango sans évoquer les Sex Cargo. Sex Cargo, un groupe qui existe depuis des années et des années. On en a parlé il y a quelques semaines avec Fredo Miji. Et là, les Sex Cargo reprennent cette chanson qui est l'un des grands classiques, What a Wonderful World. Mais là, c'est une version des plus énergiques. Les Sex Cargo avec Fox Kijango.
I see trails of green, red roses too, I'll see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, it's a bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world.
On a pas mal parlé de la musique, on a parlé de l'harmonica, Fox. Ce qui est important, c'est la plume.
Alors ça, c'est un truc qui date de bien bien avant que je pense à mettre mes textes en musique, c'est-à-dire j'écrivais sans prétention, mais j'écrivais plutôt quelque chose sous le format de la poésie. Et je me suis rendu compte en confrontant ces textes à des musiciens qu'en fait j'avais une sorte de métrique d'écriture qui se rapprochait beaucoup de la chanson. Ce qui fait que la plupart des textes, des poèmes rimés, ou des textes rimés que j'ai écrits, tombaient bien en musique. Donc en rencontrant des musiciens, on s'est mis peu à peu à mettre en musique ces textes. Et puis je continue d'écrire parce que à peu près tous les jours, il m'arrive une information ou bien il arrive un événement qui fait que j'ai envie d'écrire une chanson. Je le fais, je ne sais jamais ce que ça va donner. Des fois, ça peut rester dans le tiroir des années. Puis des fois, c'est tout de suite avec, par exemple, mon ami Luc Valla. On se met au coin d'une table et les chansons tombent des guitares. C'est arrivé avec mon autre accompagnateur, Romain Vauclair, aussi, que les morceaux tombent un peu des guitares. Il y a Manu Koumer qui m'a écrit des musiques. Il y a des Astapotes, c'est une autre aventure dont on parlera, mais qui ont écrit des chansons, qui ont écrit des musiques sur mes textes. Et j'ai beaucoup de plaisir à les chanter parce qu'on a vraiment écrit ça ensemble.
Tu as parlé de Luc, de Romain, de Manu. Je te propose un petit retour. Il y a quelques années, tu enregistres un album, Carla se mange, ici à Saint-Ursanne, à quelques mètres du lieu où on se trouve maintenant. On était venu en reportage et il y avait une ambiance assez incroyable qui régnait là. Moi, j'ai notamment un souvenir au bord du Doubs où il y a Luc qui essaye au violon d'accompagner, de trouver la mélodie, de trouver sa partition parce que cet album Carla se mange, c'était une sorte d'atelier vivant au bout duquel naissait un album.
Oui, alors effectivement, comme l'a dit Manu dans une de tes précédentes émissions, on n'a pas trop soigné la post-production, mais par contre c'est effectivement le plus de mon point de vue là, le moment que je préfère dans la création musicale, c'est justement ce moment où on cherche, où on est ensemble, où on ne sait pas exactement où on va, mais comme tous les possibles sont encore possibles, c'est vraiment une période de création qui est vraiment passionnante. Et puis en l'occurrence, dans le moment que tu évoques, il y avait quelque chose en plus, c'est que j'avais fait venir vraiment beaucoup d'amis musiciens, rencontrés au fil des années, des gens de tous horizons, de tous styles. Et ça avait été assez fascinant de voir comme tous ces gens, finalement, autour d'un... La base du projet, c'était le texte. Autour de ces textes, les gens se sont retrouvés à sortir de leur propre style habituel, de se mettre au service d'autres choses. Et cette espèce d'immense brassage, ça m'a laissé un souvenir vraiment lumineux, parce qu'en plus de ça, pour rien te cacher, on avait aussi extrêmement bien fait la fête. C'est vrai. Mais c'était de... Le moment de création était de très très grande qualité. Le moment d'enregistrement dans la ferme d'Evy, en plein hiver, il faisait froid. En fait, tout ça, ça avait amené tellement d'humanité à ce qu'on faisait que quand j'écoute cet album, eh bien, effectivement, il y a des défauts qui sont liés au manque de moyens, tout simplement. Mais moi, encore maintenant, quand je l'écoute, j'en ai des frissons parce que je me rappelle de cet immense moment de partage entre musiciens qui ne sont pas toujours très partageurs. Les musiciens, ils ont souvent leur univers à eux. Et là, le fait de se mélanger, et puis vraiment se mélanger, dans tous les genres, dans tous les styles, ça avait été extrêmement enrichissant. Et puis ça a un petit peu conditionné tout le reste de ce que je fais depuis, quoi.
Ça va mieux en pit.
Ouais, par contre, tu as fait tout tout tom. Cela, tu peux le prendre comme pit. Tu prends comme tout tout tom. Tu peux le répéter. Tout tout tom, tout tout tom. Dans ton solo, hein.
Ouais, avec la petite note.
Ouais, parce... voilà, comme ça.
C'est un début de phrase.
Ouais, ça c'est pile poil, ça. On passera ça au studio. Ouais.
C'est comme ça que naissent les arrangements, là, dans le jardin, autour d'une table.
Ouais, il faut discuter, il faut parler. On peut pas faire de la musique, puis partager, puis vouloir partager, et puis pas partager. Donc, moi j'amène le texte, les musiciens, en général c'est un guitariste ou un bassiste, amènent la mélodie, et puis voilà. Donc s'il amène une mélodie comme il est en train de faire là, ça va ressembler à du Brassens, quoi. Faire comme on veut, quoi.
On peut faire quelque chose avec ça.
Ouais, c'est bizarre, ça me fait penser à... Au marché de Brive-la-Gaillarde, à propos de bottes d'oignons, quelques dizaines, tu vois, hein. À Brassens, vraiment. S'il y en a qui trouvent que sa musique n'est pas intéressante, faut qu'ils le réécoutent.
Psst, par ici la musique.
Reste mon amour au creux du lit des fées, comblons encore le fossé, caresse et admire le mal beau et complet, qui frémit encore, sexe, luxure et très tiré. Reste mon amour au creux du lit défait. Comblons encore le fossé. Caresse et admire le mal beau et complet qui frémit encore, sexe, luxure et très tiré. Reste mon amour au creux du lit défait. Comblons encore.
Ouais. Ouais, extra. Vas-y voir. Non, tu viens à l'archer. Hein.
Papa, ma jolie, il me reste du gros désir. Je le pose là, entre tes mains. Pends-le à ton cou si fin et fermement tire. Et reste blanche et froide jusqu'à demain. Reste mon amour au creux du lit défait. Comblons encore le fossé. Caresse et admire le mal beau et complet qui frémit encore, sexe, luxure et très tiré.
Là, c'est ton seul.
On revient un petit peu à l'écriture. Qu'est-ce qui se passe dans ton esprit quand tu vas prendre la plume? Alors ça, c'est imagé parce que tu le fais probablement sur ton Mac et que tu vas commencer de jouer avec les mots.
Alors, je vais peut-être te surprendre, mais je n'arrive pas à faire le premier jet sur ordinateur. Je suis vraiment obligé d'avoir un crayon, et si possible un crayon de papier et un vilain bloc d'école. Parce que je ne sais pas, ça vient de ma... J'écris toujours avec une sorte de métronome dans la tête qui donne un rythme aux mots, ce qui probablement a fait que ces chansons, ces textes se prêtaient bien à la chanson. Mais c'est surtout qu'après, il y a très très peu de mes textes qui sont repris après. C'est-à-dire, c'est souvent, quasiment 100% de mes textes sont du one-shot. J'écris, c'est très rare qu'il y ait des modifications qui soient faites après. Donc c'est vraiment tout le temps un premier jet. Et c'est bien ou pas, ça j'en sais rien. Mais je ne vois pas souvent qu'est-ce que je pourrais changer à ce qui m'est... J'ai un peu écriture automatique, j'écris très vite. Et une fois que le plan est posé dans la tête, ça part tout seul et c'est très rare que je corrige. Alors après, je mets ça au propre sur le Mac, notamment pour le correcteur orthographique, puis pour des questions de praticité, mais j'écris au crayon et c'est rare que je revienne sur mes textes.
Mais ça veut dire qu'une chanson, tu l'écris très rapidement, en une demi-heure tu ponds une chanson?
Oh, même en moins que ça. En fait, souvent je l'écris sur la durée qu'elle dure, c'est-à-dire si une chanson de 3 minutes, c'est pas rare que je l'écris en 3 à 5 minutes. Après, j'ai beaucoup de déchets, c'est-à-dire qu'il y a, j'ai plus de 300 chansons écrites, mais je pense qu'il y en a honnêtement peut-être que la moitié qui sont exploitables. Le reste, c'est des idées dans ces chansons. Ce qui m'arrive par exemple, c'est de reprendre des vieilles chansons, des vieux textes, et puis à ce moment-là, effectivement, je reprends la trame et je réécris complètement... Je repars à zéro, mais avec la même charpente.
C'est peut-être le moment de vous expliquer pourquoi j'ai écrit Carla se mange. Un jour, dans un hôpital, j'ai aidé une personne qui m'était très chère à n'être plus chère, mais à rester comme un beau souvenir. C'était une femme très courageuse, comme le sont beaucoup de femmes. Et puis ce Carla se mange... Ben, j'ai dédié à des disparus, à des mourants. J'aimerais le dédier maintenant à la vie. Puis je le dédie à toutes les femmes ce soir.
Ses doigts et les manches, une touffe de ses cheveux roux suffiront bien pour le ragoût. Elle s'arrache délicatement des gencives quelques dents et déguste d'une seule bouchée sa langue, ses oreilles, son nez. Je sens que ça vous dérange. Pourquoi Carla se mange? Je sens que ça vous démange. Pourquoi Carla se mange? Elle se retire un œil sans plaisir, le gobe d'un coup sans gémir. Elle n'est pas encore debout, alors elle dévore ses genoux. Comme il reste sans utilité, alors elle se mange les pieds. Le corps entier se consomme, cerveau, cœur, tout en somme. Je sens que ça vous dérange. Pourquoi Carla se mange? Je sens que ça vous démange. Pourquoi Carla se mange?
Il y a une aventure extraordinaire dans ton parcours, ce sont les Astapotes.
Ah oui, les Astapotes, alors ça c'est quelque chose d'assez étonnant. Donc en 2007, sauf erreur, on est allé à Seignelay à la médaille d'or avec mes musiciens parce qu'on était en train d'écrire le premier album, justement celui dont on parlait. Et puis j'ai dit à mes musiciens, bah, qu'est-ce qu'on risque aller là-haut avec trois morceaux? On va les essayer, on va voir ce que le public en pense. C'était vraiment plutôt un test. Et puis, eh ben, ma grande surprise, on a gagné la médaille d'or avec ces trois morceaux.
Alors là, il y avait Romain, il y avait Manu.
Il y avait Sébastien Beuchat à la guitare, il y avait Manu Koumer, il y avait Romain aussi. Moi, je travaille toujours un petit peu, je suis assez fidèle en équipe, quoi. J'essaie de créer vraiment une ambiance, donc on a fait ça. Et puis dans le jury, il y avait le directeur de Voix du Sud, qui fonctionne à Astafor chez M. Cabrel, qui m'a dit après le concours, mais écoute, tu devrais t'inscrire aux rencontres d'Astafor. Les rencontres d'Astafor qui actuellement sont un peu plus célèbres parce que le vainqueur de The Voice, par exemple, vient. D'ailleurs, sur les quatre finalistes de The Voice, il y en a trois qui ont fait les rencontres d'Astafor. Donc, et puis, c'est un endroit où ils reçoivent 400-500 candidatures par session, ils en prennent 15. Donc, ils m'ont pris. J'étais très content. Puis là-bas, j'ai rencontré les 14 autres auteurs, compositeurs, interprètes qui étaient sélectionnés. On a écrit pas loin de 50 chansons en une semaine. Le feeling a vraiment bien passé, puis on a décidé de continuer l'aventure. Ce qui fait que l'hiver d'après, ici à Aucourt, on avait fait une résidence dans l'hôtel des Deux Clés. Et puis de là, on a continué, on s'est revus plusieurs fois. On a fait des concerts résidences dans le sud de la France, dans le sud-ouest, près de Biarritz, à Astafor, à Agen. Et on se voit et on continue de collaborer ensemble assez étroitement.
Par ici la musique.
Elle a de petits yeux bleus, mais elle louche un petit peu, mais me plate comme une limande. Elle a de l'amour en demande. Elle rôde dans les bars, elle accroche les regards. Pas gâtée par la nature, elle est rouge de figure. Et elle tourne et elle tourne. Muriel veut l'amour et elle va et elle vient. Muriel veut du bien et elle tourne et elle tourne. Muriel veut l'amour et elle va. Cheveux filasse, elle veut juste qu'on l'embrasse. Et toute seule dans sa chambre, elle rêve d'un homme tendre qui saurait la rendre belle comme les filles de Marc Dorcel. Et elle tourne et elle tourne. Muriel veut l'amour et elle va et elle vient. Muriel veut du bien et elle tourne et elle tourne. Muriel veut l'amour et elle va et elle vient. Muriel veut du bien.
30 ans de scène, mais la scène, c'est un élément, c'est un événement, c'est quelque chose de très fort. La scène, parce qu'il y a quelque chose de fou, puis il y a une rencontre avec le public notamment.
Ouais, alors moi j'aime beaucoup ça. Alors effectivement, je suis un peu cabot et puis j'aime bien qu'on me remarque et qu'on me voie. Ça m'a pas d'ailleurs valu que des amitiés dans ma vie, mais voilà. S'il n'y avait pas la scène, je ne ferais pas de musique, tout simplement. Ça n'aurait aucun intérêt pour moi, la musique, si je ne pouvais pas aller sur scène. Je peux être démoli, je peux avoir 43 de fièvre, je mets le pied sur scène et je suis comme dans mon élément, comme pleinement heureux. C'est, je crois, le seul endroit au monde où je suis sûr que je serai heureux. Pendant une heure et demie, je suis juste heureux, je kiffe d'être là. J'adore ce contact avec les gens un peu à distance. J'aime bien aussi un peu provoquer des réactions chez les gens. Dans la première époque de Foxy Django, j'avais une sorte de juge de paix. Je considérais qu'un de mes concerts était réussi s'il y avait au moins une personne qui pleurait, parce que les chansons étaient tristes. Et j'aime provoquer chez les gens des émotions comme la tristesse, la joie ou le rire. Je n'écris pas que des choses tristes, mais souvent c'est assez lourd. Par contre, entre les morceaux, je ne me gêne pas et j'aime beaucoup la scène. Vraiment, c'est un peu ma raison de faire de la musique.
Parle de ton projet actuel, Chanteur Mortel. Comment est-ce que tu le présentes aujourd'hui, en mai 2012 ?
Je le présente comme de la chanson rock francophone, quelque chose qui lorgne un peu vers l'électro par moment, et puis quelque chose qui n'est pas très éloigné finalement au niveau du texte. C'est toujours assez lourd, je reconnais, mais c'est aussi parce que j'aime bien les textes qui ont un peu du sens et puis qui peuvent éventuellement un peu provoquer quelque chose chez les gens. J'ai très très peu de sympathie pour les chansons qui n'ont aucun fond. Enfin, à la limite, je trouverais que le petit bonhomme en mousse a au moins la qualité de détendre les gens. Mais moi j'aime bien quand la chanson est un peu plus signifiante, quand elle est un petit peu plus... C'est pour ça que je me réclame quand même plus de... En toute modestie ou immodestie, mais je me réclamerais plus, disons, des trois grands, Bréhel, Ferré, Brassens, et puis peut-être plus proche de nous, Bachung, Arnaud ou Thieffen. Vraiment, ça, c'est des gens qui ont une écriture, un genre, un style, et tout ça est mixé avec la musique, et ça forme un tout, et c'est ça qui m'intéresse.
Merci, Fox. Bonne journée.
Merci, bonne journée à
bonne
tous.
Chance.
Ah, j'espère.
Au petit bar de Mars, les gars, on prend la paix. La guerre est une farce, on est aussi des regrets. Soyons la clientèle et qui ne reste des patrons. Mais si l'on se rebelle, ils joueront du canon. Pour de bon, surtout ne pas bouger. Surtout ne pas bouger. Surtout ne pas bouger.